les podcasts de Radio Vatican.
Ils continuent à fuir la Birmanie pour se réfugier au Bangladesh. À la frontière, les Rohingyas seraient près de 430 000 sur les bords de route, dans les forêts ou dans des camps de boue jonchés d'excréments, souvent isolés. Les ONG s'inquiètent des pénuries d'eau, de médicaments et de nourriture. Elles appellent à l'aide face à une probable catastrophe humanitaire. Ce vendredi 22 septembre 2017, l'ONU a demandé 200 millions d'euros et saluer la décision de Dhaka d'allouer un terrain à la construction d'un nouveau gigantesque camp de réfugiés. Benoît De Grise est le responsable des opérations de Médecins sans frontières en Birmanie. MSF n'a plus accès aux Rohingyas dans l'état de Rakhine, mais peut nous décrire la situation à la frontière avec le Bangladesh.
À l'heure actuelle, on est présent dans plusieurs zones dans le pays, notamment dans le Shan, le Kachin, le Yangon, et on a fait aussi le Rakhine. Par contre, l'accès à Rakhine, à l'heure actuelle, est un grand problème pour nous. Nos équipes n'ont pas la capacité d'accès à la population qui est en détresse, qui est déplacée suite aux violences qui se sont passées les derniers mois.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas accès à ces populations? Qui vous en empêche?
En fait, on est plus ou moins bloqué par le gouvernement qui ne donne pas la permission aux organisations internationales d'exécuter leur mandat, notamment d'apporter l'aide humanitaire à la population de détresse. Du coup, à la fois, c'est le gouvernement, mais aussi les militaires, parce que c'est une zone militaire à l'heure actuelle.
Est-ce qu'on vous a donné des raisons, des causes, des motivations à ce refus?
Non, en fait, ce qu'on réclame, c'est notamment, en effet, une procédure claire pour demander l'accès, parce qu'il devrait avoir des procédures claires, et deuxièmement aussi sur la cause du refus.
Donc ça ne vous a pas été signifié. Comme vous voulez accéder à des populations Rohingyas qui sont dépréciées dans le pays par la population majoritaire, on va dire, est-ce que vous-même, vous avez fait l'objet de menaces? Est-ce que vous pensez que c'est ça l'objet aussi du refus?
Ce qu'on a constaté, c'est que le gouvernement même a insinué que les ONG ne seraient pas neutres. Ils ont même accusé les ONG d'être en complot avec le groupe armé qui a exécuté des actions lors du 25 août. Évidemment, nous, on trouve ça tout à fait inacceptable. Nous, en tant qu'organisation internationale humanitaire, on tient sur le mandat de neutralité, indépendance, impartialité. Et évidemment, on essaie d'atteindre les gens les plus affectés, qui, à leur intérêt, sont les Rohingyas. En Rakhine propre, en effet, il y a une tension entre les deux communautés, notamment la communauté Rakhine et la communauté Rohingya. Et il y a un certain risque, en effet, sur les ONG, quand la population Rakhine a la perception qu'on est juste là pour aider la population Rohingya.
Donc, vous n'avez plus accès à certaines zones de l'État Rakhine, comme vous dites. Est-ce que vous avez quand même des échos de ce qui se passe pour cette population Rohingya?
Évidemment, sans l'accès, même si on a encore une équipe qui est présent à Mongdong, du coup dans le nord de Rakhine. On n'a pas beaucoup de moyens de se déplacer dehors de notre bureau. Comme je vous expliquais, on n'a pas la permission. Et du coup, c'est difficile de vraiment avoir un sentiment exact de ce qui se passe. Par contre, on est quand même à Bangladesh, et là, on a noté qu'il y a jusqu'à 500 000 Rohingyas qui sont arrivés au moins d'un mois, qui est une situation difficile à imaginer, parce que déjà, le Bangladesh soit un pays très pauvre. Il y avait déjà quelques centaines de milliers de Rohingyas, des réfugiés des années précédentes. Et maintenant, on ajoute une couche de 1 million de personnes dans une situation affreuse. Et là, heureusement, on peut aider la population. Et ce qu'ils nous disent, en effet, nous inquiète beaucoup. C'est les villages qui sont brûlés, les amis qui chassent les Rohingyas de leur village. Du coup, on s'inquiète beaucoup. Et suite aux histoires que les Rohingyas nous racontent à Bangladesh, ça nous donne encore plus de motivation pour aider cette population qui est bloquée maintenant à Rakhine.
Ça concerne combien de personnes, selon vous, cette population bloquée à Rakhine?
C'est difficile à estimer parce qu'il faut se rendre compte qu'en fait, les Rohingyas, le gouvernement birman, n'a jamais accordé l'identité nationale aux Rohingyas. Du coup, il n'y a pas vraiment de sondage pour donner un chiffre exact. Ce qu'on sait, qu'il y avait plus ou moins une population d'environ 1 million 100, dont il y en avait déjà plus que 100 000 qui étaient dans des camps déplacés dans le centre de la Chine. On sait qu'il y a plus ou moins 400-500 000 personnes qui sont maintenant déplacées vers le Bangladesh. Du coup, on estime qu'il y a entre 300, 350 et 500 000 personnes qui restent dans le nord de la Chine. Par contre, parmi cette population, Il y en a beaucoup qui ont pris un refuge dans la forêt, dans les champs, qui n'ont plus accès à leur village. Et ça veut dire que, comme ils sont bloqués, ils n'ont pas l'accès à l'aide médicale, l'aide humanitaire, ils n'ont pas de l'eau potable, ils n'ont rien à manger. Du coup, en fait, la situation est très précaire aussi dans le Rakhine.
MSF craint à la fois une catastrophe humanitaire au Bangladesh, mais également dans l'État Rakhine.
Exactement. Et heureusement, c'est difficile à dire, mais au moins on a accès à la population en Bangladesh. Et je pense qu'il faut le dire que le Bangladesh a été très réceptif auprès des ONG pour qu'on puisse augmenter nos opérations sur place. Mais par contre, en effet, à Rakhine, on n'a aucun accès à la population et ça nous inquiète beaucoup.
Vous travaillez plus sur la Birmanie et le Myanmar, mais est-ce que vous avez des connaissances de l'état des camps et des besoins de la population au Bangladesh?
En fait, il faut s'imaginer que la zone frontalière entre le Bangladesh et le Myanmar, c'est une zone qui est peu développée. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Il y avait déjà des camps qui n'étaient pas des camps officiels, mais des camps provisoires. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas beaucoup de latrines, il n'y avait pas beaucoup de l'eau potable. L'accès aux soins était déjà limite. Maintenant, on ajoute une demi-million de personnes qui sont affamées, qui n'ont eu rien à boire. Ils ont un taux de vaccination très minimal. Ils sont émotionnellement en détresse, choqués, traumatisés, tout ce que vous voulez. Et du coup, on ajoute ça sur une population déjà en détresse, en précarité. Du coup, la situation maintenant, elle est extrêmement urgente. Il faut s'imaginer que tout le monde se trouve dans la boue, il n'y a pas d'accès au abri, il n'y a pas beaucoup de puits pour l'eau potable, il n'y a pas de latrines. Les références pour les cas médicaux urgents sont très peu présents. Du coup, c'est une catastrophe.
Des propos recueillis par Marie Duhamel.